des vies et des hommes.
Isabelle Rupin.
On ne cesse de le dire, il fait bon vivre en Mayenne et l'air de la Mayenne doit être bon et il doit conserver aussi. Roger Desplanques a fêté son 100e anniversaire en juillet dernier, en 2020. Bonjour monsieur.
Oui, c'était bien.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous à Laval. Est-ce que vous êtes originaire d'ici ?
Je suis né vieux. J'avais déjà 40 ans.
Quand vous vous êtes installé à Laval ?
Non, 40 ans, c'est mon pays d'origine. C'est là que mon père a été tué. J'avais 7 ans, en 1927. Il a été tué par le taux du duc de Flers. Il était chef de garde de la garde de 40 ans et il allait faire les commissions pour sa famille. Et en sortant de cette maison-là, une auto est arrivée et l'a bousculé. Et sur cet accident, il était tué. C'était en 1927. J'avais 7 ans.
Oui, vous étiez bien jeune pour perdre votre papa. Et votre enfance a dû être marquée par l'absence de votre papa ?
Oui, aussitôt, comme il était chef de garde de 40 ans, ma mère travaillait à côté dans un hôtel. Elle a été réquisitionnée par les chemins de fer. Et là, on lui a donné un poste à Châtillon-sur-Cormon, au Prédernay, pour les chemins de fer, c'est-à-dire garde-barrière. Et moi, comme je n'avais que 7 ans, j'allais à l'école à Ernée. Et il fallait que je fasse 2,5 km, 3 km à pied tous les matins pour aller à l'école. Mon chemin, c'était le long de la voie ferrée jusqu'à la gare d'Ernée. Et à Ernée, je remontais la route pour aller à Ernée, à l'école primaire.
Le soir, vous rentriez à pied aussi, forcément ?
Je revenais à pied le soir.
Quand vous voyez les enfants d'aujourd'hui qui sont déposés en voiture au pied de l'école, ça vous fait un petit peu bizarre ?
Non, moi, j'aimais bien d'aller à pied, faire les 2,5 km pour aller à l'école, tranquillement.
Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de l'école, hein, quand vous étiez petit, qui peut changer par rapport à aujourd'hui ?
Alors, à l'école primaire d'Ernée, le directeur habitait juste à côté et je mangeais au restaurant dans l'école. Et un jour, j'ai regardé dans mon plat qu'on me donnait, préparé, il y avait une souris qui était entre les pommes et les carottes. Alors j'ai rouspété, j'ai laissé le plat comme ça et je suis allé trouver le directeur de l'école. Je lui ai dit, vous m'avez donné une souris à manger ce midi. Il m'a dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, prenez le plat qui est là, c'est le mien. Il y a la souris qui est là, elle est cuite dedans. Alors il a fait son enquête et il m'a dit le jour même, « Bon, tu n'iras plus manger à l'école, tu mangeras chez moi. » Il habitait juste à côté, dans la cour. Alors je suis allé manger chez lui et il m'a bien alimenté. Et là j'ai passé mon diplôme après, départemental, et j'étais reçu le premier pour aller au collège. J'avais 8 ans et demi, 9 ans à peu près. J'étais reçu premier avec 19 de moyenne et le deuxième avec 14.
Voilà, ben bravo, hein.
Non, à ce moment-là, j'étudiais énormément. C'était mon métier d'apprendre parce que mon père n'étant plus là, il fallait que j'aide spirituellement ma mère à faire son travail et à s'occuper des 3 enfants, parce qu'on était 4. Il y avait une fille et 3 garçons. Moi, j'étais le 4e. Après l'examen, je suis rentré au collège d'Ernée, tout à fait au dernier étage, puisque j'étais tout jeune encore. Et c'est là où j'ai fait toutes mes études.
Bon, et là, vous avez des souvenirs aussi particuliers ?
On ne m'admettait pas très bien parce que j'étais un garçon. Il y avait des filles aussi. Et je réussissais tous les examens qu'on me donnait à passer. Alors ça gênait les professeurs parce qu'il ne pouvait pas me réprimander pour tout ce que je faisais. Et puis après, j'ai passé un examen, le brevet, où j'ai été reçu aussi pour toute la Mayenne. Et en arrivant à 17 ans et demi, ma mère me dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire après? Ben, je lui ai dit, je voudrais bien rentrer dans l'armée. Il m'a dit, dans quelle armée? Alors j'avais choisi en Bretagne, puisque Ernée, c'était presque l'île et Vilaine, quoi. Alors j'ai dit, je vais choisir la marine, l'école, enfin les jeunes de marins. Alors on m'a dit, bon ben, faut d'abord te faire inscrire à Laval pour être candidat à l'école de Mestrance, en Bretagne. Alors je suis allé chez c'était les gendarmes, je crois, me faire inscrire. On m'a dit, tu veux aller à Mestrance? J'ai dit oui, mais quel âge tu as? Ben, je suis du 23 juillet. Alors on m'a dit, ben, t'es trop vieux, faut être né après le 1er août pour rentrer à l'école de marine. J'avais 7 jours de trop. Alors ils n'ont pas voulu m'accepter. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, ben, je peux pas rentrer dans la marine. Alors, elle m'a dit, ben, on va essayer de trouver autre chose. J'ai dit, donne-moi les albums des chemins de fer, puis je vais bien voir qu'est-ce qu'il y a comme école autre que la marine. Alors j'ai regardé, j'ai trouvé Salon de Provence, école de l'air. J'ai dit à ma mère, ben, ça m'intéresserait ça. Elle m'a dit, ben, retourne voir les gendarmes, et puis tu leur dis que tu veux rentrer à l'école de l'air à Salon de Provence. Alors j'y suis allé, et puis ils m'ont dit, ben, c'est d'accord. Alors j'ai signé comme quoi je voulais aller à l'école de l'air. À l'école de l'air, ils m'ont dit, eh ben, venez. Alors comme ma mère était dans les chemins de fer, elle m'a dit, d'accord, ton voyage sera gratuit. Alors c'est comme ça que je suis arrivé à Salon de Provence le 24 ou 25 juillet en 1938. Alors je suis rentré à l'école de l'air et là, il y avait beaucoup de candidatures, etc. Alors ils m'ont fait passer les examens, etc. Et j'étais reçu premier aussi. On m'a dit, bon, ben, tu vas faire des cours de pilotage, etc. Alors ils m'ont appris déjà.
Vous aviez quel âge du coup?
J'avais 18 ans. Alors c'est là où j'ai appris à voler sur les avions de l'école de Salon de Provence. Mais c'était pour simplement être pilote, mais pas pilote de chasse, évidemment. Alors j'ai appris, j'ai été nommé pilote, évidemment. Les cours ont défilé et puis les Allemands avaient envahi la France. Il y avait la France libre, la France occupée, etc. Et on m'a dit, bon, ben, maintenant c'est la France occupée, on peut plus te garder, mais en France libre, il y a d'autres aviateurs qui vont, par exemple, en Afrique, etc. Ben, j'ai dit, je veux bien aller en Afrique, quoi. Alors on m'a envoyé à Alger, et à Alger, c'était un peu spécial. Le général commandant l'Afrique, c'était le général Pelletier d'Oisy, on l'appelait Pivolo. Pourquoi? Parce qu'il volait toujours. Il ne faisait que voler. Dans son bureau 37 rue Thiers à Alger, il n'y était jamais, pratiquement pas souvent. Parce qu'il faisait toute l'Afrique du Nord surtout. Alors on m'a dit, tiens, ben, il est tout seul, il voudrait un secrétaire. Toi, t'as fait déjà pas mal de diplôme et tout ça, ce serait bien que tu sois son secrétaire. Alors, je suis allé là-bas, il m'a dit, bon, ben d'accord, tu vas être mon secrétaire, mais tu restes ici, au 37 rue Thiers à Alger, et tu n'évacues pas, tu fais rien du tout. Tu surveilles que tous les avions d'Afrique du Nord, les transports et tout ça, acceptent ma signature. Alors ma signature, je te la donne, tu signes, Général Pelletier-Doisy. Alors j'étais à son bureau tout seul, il n'y avait personne d'autre dans son bureau. Je signais tous les transports. C'était surtout des transports, pas des avions de guerre, mais des avions pour transporter le personnel, le matériel et tout ça. Depuis le Maroc jusqu'à la Tunisie, toute l'Afrique du Nord. Et puis, comme j'étais tout seul et j'avais que 18 ans, à mon bureau, il y avait une grande glace comme celle-là. Et je travaillais toujours devant la glace et tout. Il y avait des coiffeuses qui faisaient leur travail derrière ma fenêtre. Et ils me regardaient. Moi, je ne regardais pas. Ça m'intéressait pas. À 18 ans, on s'intéresse d'abord au téléphone et puis au message qu'il fallait que je passe.
Oui, parce que vous aviez une grosse responsabilité quand même.
Eh bien, j'étais le secrétaire du général Pelletier-Doisy et j'étais tout seul dans son bureau. Alors, c'est moi qui signais pour lui tous les transports d'avions de transport et tout ça. Et puis, on me regardait toujours. Et puis, à la fin, on me dit par la fenêtre, on peut vous voir, on peut vous regarder. J'ai dit non, c'est défendu, c'est un bureau privé que j'ai. Alors, ça a duré encore quelques semaines comme ça. Et puis les femmes de l'autre côté, là, les coiffeuses, elles voulaient voir qu'est-ce que je faisais dans mon bureau. Alors un jour, j'étais fâché de voir toujours la même personne m'interroger. Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es tout seul? Alors j'ai dit, oh, je vais vous l'expliquer, mais pour le téléphone, c'est défendu. Je vais demander au général si je peux vous faire monter. Alors le général, quand il est revenu, il m'a dit, bon, ben, tu ouvres la porte, là, l'escalier, et ça correspondait à la salle de coiffure d'en bas. Alors, il me dit, bon, ben, tu fais monter une ou deux personnes, mais tu ne leur donnes aucun document, etc. Tous les documents, c'est toi le responsable. Tous les avions qui décollent d'Afrique, etc. Alors j'ai dit, il n'y en a qu'une qui peut monter, je n'ai pas l'autorisation pour d'autres. Je lui dirai ce que je fais et elle redescendra aussitôt. Alors, comme par hasard, c'était ma future femme qui montait.
Ah, voilà.
Elle est montée. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, on veut savoir qu'est-ce que vous faites tout seul là, tous les jours, et toujours au téléphone, vous téléphonez pour tous les avions qui vont décoller d'Afrique, etc. J'ai dit, bon, je vous dis, je suis confidentiellement responsable de tous les avions d'Afrique du Nord, pour tous les avions qui vont décoller d'Afrique, etc.
Et alors, si je comprends bien, vous avez fini par épouser cette dame, cette coiffeuse qui vous harcelait.
Oui.
Ouais. Bon, on reparlera de votre vie de famille plus tard. Revenons à votre activité du moment, donc adjoint du général Pelletier-Doisy à Alger.
Comme par hasard, un dimanche, il y a des avions américains qui sont venus et qui ont bombardé Alger, etc. Comme j'étais le responsable, je suis resté là, dans mon bureau. Les Américains sont arrivés, ont envahi tout Alger. Ils savaient où était mon bureau, le bureau du général, qui n'était pas là. Mais comme par hasard, Pelletier-Doisy, il a appris, il n'était pas à Alger, mais il a appris que c'était les Américains qui arrivaient. Et moi, je croyais que c'était les Allemands qui débarquaient de la France, qui venaient envahir l'Algérie. Et il y a le général qui arrive, qui me dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui dis, les Allemands ont bombardé cette nuit-là, et ils vont certainement arriver là. Alors je n'ai pas quitté mon bureau parce que je voulais que vous veniez d'abord. Je ne veux pas que les Allemands viennent là. Il me dit, ben, c'est pas les Allemands. Ben, je lui dis, comment vous le savez? Mais parce que je les ai vus déjà, c'est les Américains qui débarquent ici, en Afrique du Nord. Alors, il m'a dit, moi je retourne dans le bled parce que j'ai encore des missions à accomplir. Alors, je suis resté dans son bureau. Et les Américains sont arrivés, mais comme il m'avait dit de les accueillir Je les ai accueillis et ils m'ont dit, ben, c'est nous qui allons commander, donc toi, tu vas rester là provisoirement. Et on va y Alger d'abord, et puis après on ira au Maroc et en Tunisie. Alors ils sont allés en Tunisie d'abord, et puis après au Maroc. Ils m'ont dit, toi tu as piloté déjà. Aujourd'hui j'ai piloté des petits avions, des avions de tourisme pour l'armée française. C'était le P-40, des choses comme ça. C'était des petits avions. Ils m'ont dit, bon, bah, puisque tu as piloté, on va t'emmener en Amérique, on va t'envoyer sur un bateau spécial pour toi. Alors, j'ai dit, bon, ben d'accord, je veux bien faire pilote aussi en Amérique. Alors, ils m'ont dit, en attendant, tu restes là quelques jours pour qu'on fasse venir des bateaux au Maroc, à Casablanca, ou non, c'était Rabat, je crois, où les bateaux américains pouvaient accoster.
Et donc c'est à ce moment-là que vous êtes parti avec l'armée américaine et que vous...
Je suis parti sur un bateau américain et je crois qu'à ce moment-là, les Américains, comme j'étais le secrétaire de général Pelletier-Doisy, les Américains me reconnaissaient un petit peu au-dessus de mon service, quoi, parce que j'étais simplement caporal à ce moment-là. Ça a duré 4 jours ou 5 jours, la traversée en bateau.
En 43, donc vous êtes aux États-Unis en tant qu'élève pilote.
Voilà. Alors j'étais déjà pilote en France. J'avais piloté à Rodez et tout ça. Mais j'étais qu'un petit pilote, quoi. J'étais pas pilote militaire.
Là, c'était des avions de chasse que vous appreniez à piloter.
Non, non, non,
Pas
non.
encore.
Alors je suis arrivé. Alors on m'a dit, bon, on va t'envoyer sur un terrain de pilotage. Alors j'ai piloté d'abord les petits avions, P-39. Il y avait trois études, primaries, les secondaires, et là après c'était pilote militaire. Je savais piloter. Alors ils m'ont dit, bah, toi t'es formidable, tu vas passer un secondaire. Un secondaire. Alors là j'ai été reçu encore premier à la deuxième école, toujours premier
Toujours, hein,
pilote.
bah oui.
Malgré les Américains et tout ça qui étaient dans la même école. Alors on m'a dit, bon, tu vas passer dans la troisième école et tu vas faire élève pilote de transport. J'ai dit, non, je veux pas. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu veux pas être pilote d'avion de transport? J'ai dit, parce que si j'ai un accident, c'est tous ceux qui sont dans mon avion qui vont être blessés ou tués, et moralement, je serai responsable de leur accident. Alors, je préfère et tout seul dans mon avion. C'est là qu'ils m'ont dit, bon, bah, on va te mettre pilote de chasse. Oh, j'ai dit, je voudrais être bien bombardier. Ils m'ont répondu, bon, bah, ça existe aussi, pilote de chasseur-bombardier. Alors c'est là qu'ils m'ont donné au Skoda comme école. C'était l'avion de P-47 que j'ai là en photo et tout ça. C'était des gros avions, qui était très lourd, et puis il y avait la cabine pour le pilote, mais j'étais tellement petit et la cabine grande, j'ai dit comment je vais faire pour taper. On m'a dit, bon, on va te mettre des dispositions, des courroies et tout ça pour attraper les volants et tout ça. Alors c'est là où j'ai été nommé pilote de chasse et j'ai fait 90 heures. C'était pas des jours, c'était des heures là, de pilote. Alors, le débarquement avait déjà été effectué avant qu'on arrive en France, puisque c'était les Américains qui arrivaient, c'était pas moi, c'était les Américains. Alors ils m'ont mis sur les avions de débarquement. Et c'est comme ça que j'ai fait le débarquement à Cherbourg, je crois, en Cotentin.
On va s'interrompre là pour cette première partie de ce Dévier des hommes consacré à Roger Desplanques qui a fêté ses 101 années en juillet dernier. Il nous reste encore quelques aventures palpitantes et d'autres anecdotes amusantes à découvrir, mais ça sera pour la semaine prochaine.